Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, je suis Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Bibliothèque et Archives nationales du Québec est fière d'ouvrir déjà cette troisième saison littéraire en présence aujourd'hui de Marie-Claire Blais, une écrivaine remarquable qu'on a trop peu souvent le plaisir de rencontrer et dont je laisserai le soin à Aline Apostolka de vous la présenter. Cette série d'entretiens avec des écrivains marquants de la littérature québécoise nous permet de mieux connaître leur travail, leurs sources d'inspiration, leur rituel d'écriture, autant que les aspects de leur vie qui font naître le désir de créer. La rencontre sera suivie d'une période d'échange et vous aurez également l'occasion de pouvoir réentendre cet entretien grâce à la captation et qui est accessible sur notre portail. Avant de céder la parole à Mme Apostolska, je vous invite à éteindre vos téléphones cellulaires et vous convie à notre prochain midi littéraire qui aura lieu le 14 octobre, en compagnie cette fois-ci de l'écrivain Gilles Thibault. Je vous souhaite une très belle rencontre. Merci.
Bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver. Merci Christine pour cette présentation. Merci à vous pour votre fidélité. Alors, c'est une nouvelle saison dans la vie de la Grande Bibliothèque. Et comme vous le savez, puisque vous êtes aussi des fidèles, comme je disais, chacune de nos saisons a commencé avec un écrivain un peu à part, en tout cas d'une dimension internationale incontestable. Ainsi, nous commencions en septembre 2006 avec Benoît de Groulx, de passage chez nous, en février 2007 avec Dany Laferrière, en septembre 2007 avec Michel Tremblay. Et aujourd'hui, notre invitée est sans conteste l'une des meilleures écrivaines contemporaines du Québec, mais sa notoriété a depuis 1960 déjà été saluée et récompensée hors du Québec, hors même de la francophonie, et elle demeure une des plus importantes ambassadrices de la littérature québécoise dans le monde, jusqu'en Chine, puisque ses livres sont traduits aussi en chinois maintenant. Quand un livre est bien écrit, il est toujours immoral, aime-t-elle à souligner. Et en effet, plus amoral qu'immoral, c'est peu de dire qu'elle n'écrit pas pour ne rien dire. En 2009, elle fêtera 50 ans d'écriture et de publication, quelques 30 livres, une vingtaine de romans, 2 recueils de poésie, 5 pièces de théâtre, mais aussi des éditions critiques, des traductions, des scénarios pour la radio et la télévision. Tout au long de cette création dense et intense et sans concession, elle n'a cessé de décrire la réussite ou l'échec réel ou imaginaire du rachat de la souffrance humaine, de la violence qui nous entoure, par une sorte de quête morale ou spirituelle, avec toujours une critique sociale présente. 2 de ses romans ont été adaptés pour le cinéma. Elle s'est vue décerner de nombreux prix littéraires au Québec, au Canada et à l'étranger, entre autres, je dirais entre beaucoup d'autres, le prix France-Canada dès 1965, le prix Médicis en 1966, le prix du gouverneur général en 1969, 70, 96, 2001 et 2005, le prix Athanase David et le prix de l'Académie française en 1982, le prix Luigi Duvernay en 88, le prix d'Italie en 99, le prix W.O. Mitchell et le Grand Prix Métropolis Bleu en 2000, le prix Prince Pierre de Monaco en 2002 et Gilles Corbeil en 2005. Et la liste pourrait être beaucoup plus longue. 2 fois boursière du Guggenheim Fellowship, elle est membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec et chevalier de l'Ordre des Lettres de France. Elle a également été élue au sein de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Depuis longtemps, cette Québécoise de cœur voyage beaucoup et vit et écrit ailleurs. Et justement, elle qui parle peu d'elle est venue spécialement de Key West pour nous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Madame Marie-Claire Blais. Alors, c'est un peu impressionnant parce qu'ils sont nombreux et impressionnants, mais après ça, on va être entre nous. Alors, on va avoir une conversation tout à fait intime. Comment allez-vous ?
Merci, merci beaucoup. Comment allez-vous ?
Ça a été un été d'écriture pour vous ?
Oui.
Dans les intempéries aussi, parce que quand on habite Key West, on est à la fois dans la tempête intérieure et extérieure.
Oui, il y a beaucoup de, malheureusement, beaucoup de, d'intempéries et d'ouragans en ce moment, qui affectent bien des vies, surtout à Haïti. C'est bien terrible.
Cuba, aujourd'hui même.
Cuba.
Alors nous, on va remonter à une époque, disons, un peu plus lointaine et un peu plus calme, mais au bord d'un fleuve, un grand fleuve. Ici, traditionnellement, la première question est intime. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
octobre 39, Québec.
Oui, dans le quartier de Limoilou, je lisais.
C'était Saint-François d'Assise, mais plus tard Limoilou. Ce sont des quartiers modestes de la ville de Québec qui, à l'époque, étaient assez divisés entre la haute classe et les gens de classe moyenne. Aujourd'hui, ça disparaît, cette tendance à isoler les uns des autres. Mais à l'époque, il y avait une véritable distance sociale entre les deux.
Est-ce que cette distance a été importante ou est-ce que ça a marqué d'une façon ou d'une autre votre enfance ?
Bien, je pense que dès mon enfance, j'étais sensible aux injustices sociales. Ma famille était raisonnablement confortable, mais à côté de chez moi, ou près de chez moi, je voyais des gens qui ne l'étaient pas, qui étaient dans la misère, vraiment de la grande misère. Et peut-être que ça m'a beaucoup touchée tout de suite, dès l'enfance.
Quand vous pensez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous diriez d'elle ?
J'ai essayé de raconter un peu ce que l'on éprouve quand on est un enfant qui va devenir écrivain, un enfant écrivain. Parce que cela existe, comme on a des enfants peintres et musiciens. Et j'ai essayé de le raconter dans la trilogie Manuscrit de Pauline Archange, où on parle d'une vie de petite fille qui veut écrire et qui doit s'inspirer de son inspiration est le quotidien de ses parents, de ce milieu dans lequel elle vit, où il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de cruauté, et où bien qu'elle soit élevée par des parents très dignes, ils sont sévères et en même temps ne comprennent pas, parce qu'ils sont dans des graves crises économiques à traverser, ils ont de choses très lourdes à traverser sur le plan de l'économie, leur propre richesse, ils en ont très peu, sauf celle du cœur. Et c'était de décrire à travers cela l'évolution d'une enfant dans un milieu qui apparemment lui est hostile, mais où il y a quand même toutes ces qualités de tendresse et de cœur et d'une famille généreuse, mais pas très riche. Donc la frustration de cet enfant, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était le milieu lui-même, le milieu dans lequel évolue cette jeune enfant qui va devenir un écrivain peu à peu, vers l'âge de 11 ans, 10 ans, et qui alors prend, épouse la sensibilité de l'écrivain beaucoup plus ouverte aux autres, moins repliée sur elle-même, et qu'elle l'était quand on la connaît au début du livre. On voit qu'elle grandit. Bon, c'était pour moi fascinant à écrire, parce qu'on pouvait en même temps décrire toute la société de l'époque, l'oppression politique et religieuse, toutes sortes de classes sociales aussi, des gens de différents milieux, et en même temps qui sont en train de grandir auprès d'elle. En même temps qu'elle grandit, elle fréquente le fils d'un médecin, la fille d'un médecin, un garçon qui va à l'université quand elle pourra à peine terminer ses études. Elle devra travailler et tout. Ces sentiments de l'injustice liés à la vie intellectuelle Et tout cela, c'est pas mal, beaucoup dans ce livre que j'ai essayé de... Bien que ce soit pas autobiographique complètement, les sources sont les nôtres, sont les sources de notre société, de cette époque où les gens essaient de sortir de la nuit.
C'est ça, ils sortent de beaucoup de nuits parce que c'est une guerre aussi, Seconde Guerre mondiale, même si elle est loin, elle est quand même présente là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ne serait-ce que dans le Saint-Laurent et tous ces sous-marins, etc. Mais c'est effectivement ces manuscrits de Pauline Archange, ce livre que vous écrirez 30 ans plus tard, vers l'âge de 30 ans, qui vous vaut votre premier prix du gouverneur général. Mais si aujourd'hui vous pensez à la petite fille que vous étiez, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'elle devait devenir écrivain ? Est-ce que c'était par la distance qu'elle avait par rapport aux autres ? Est-ce que c'était par la solitude intérieure ? Est-ce que c'était par la lecture dans laquelle vous étiez ? Comment ça se passait, ça, cet accès-là à la littérature ? Et comment s'est-il conscientisé ?
Hélas, il y avait peu de lecture. Ce n'était pas très encouragé, mais c'était comme le plaisir des riches. Je ne sais pas, c'était très curieux, cette mentalité. Parce que l'Église catholique ne nous encourageait pas, nous, enfants, à lire beaucoup, ne nous donnait pas de livres, sauf des livres religieux. Et si on avait une grande faim de lecture, on devait attendre pour la combler. J'étais peut-être très réveillée par tout ce qui était artistique, parce que j'avais des tantes et des oncles qui étaient musiciens, musiciennes. Et peut-être que je savais que leur vie était en quelque sorte assez brisée, parce que la crise économique et la guerre les avaient plongés dans cette noirceur où ils n'avaient pas pu accomplir tous les prodiges qu'on espérait d'eux et qu'ils attendaient d'eux-mêmes, au point même qu'il fallait vendre le piano, il fallait se dépouiller de tout, etc. Et je pense que d'avoir vu ces gens autour de moi qui luttaient, mais qui étaient brisés, comme on verra est brisé André Mathieu, c'était cette époque, on peut sentir, qu'on pouvait sentir comme enfant qu'il fallait reprendre la flamme qui avait été abandonnée par ceux-là qui avaient beaucoup de talent dans la famille, mais qui ne pouvaient plus, pouvaient pas réaliser leurs promesses.
Alors, comment se passait l'école ? Parce que je sais que vous avez été élevée chez les sœurs catholiques, comme c'était souvent le cas de l'époque. Qu'est-ce que vous aimiez ? Est-ce que vous aimiez l'école ? Et qu'est-ce qu'on vous y apprenait si on ne vous apprenait pas tellement la lecture ?
C'était très borné. C'était pour un enfant qui veut apprendre. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, de largesse d'esprit. C'était l'oppression religieuse, vraiment. On la sentait. Mais par contre, si on allait dans un couvent où ma mère m'a envoyé... La congrégation Notre-Dame était un couvent. Les religieuses de la congrégation Notre-Dame étaient très avancées. Elles étaient érudites. Et souvent, c'était des femmes très bien. Vers l'âge de 12 ans, 11 ans, j'étais dans un couvent où j'ai quand même pu apprendre beaucoup plus vite. Là. Et la lecture était recommandée. Et puis même, on lisait de tout. C'était tout à coup comme... Bien sûr, il ne fallait pas... prolonger trop ce temps-là, parce qu'on y sentait quand même un étouffement moral, mais je crois qu'elles nous ont apporté beaucoup à ce moment-là, ces religieuses distinguées, qui appartenaient à un milieu social plus élevé que celui des écoles publiques. Elles apportaient beaucoup à leurs enfants, à leurs élèves.
Mais pendant de très longs siècles, je dirais jusqu'au 19e siècle, la fin du 19e siècle, il faut attendre les Anglaises pratiquement, quelques Françaises, mais les Anglaises, pour qu'une femme qui veut écrire puisse ne pas être religieuse. Il y a cette notion quand même aussi de transmission de la littérature à travers le lieu religieux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous évoque quelque chose de votre enfance? Est-ce que vous aviez senti cet encouragement de la part de ces femmes-là aussi? Et vers quoi? Vers quel genre de livre? Vers quel genre de littérature?
Mais on sentait, bon, d'abord il y avait ces grands poètes, ces grands écrivains, Gabriel Roy, Anne Hébert, Claire Martin, et il y avait toute une. Et dans la ville de Québec, il y avait Roger Lemelin qui remuait la révolte de ces personnages et qui disait que chacun avait droit à la part de l'autre. Mais je crois que dès qu'on commence à lire, dès qu'on commence à lire tout jeune, Catherine Mansfield, les Brontës, toutes ces femmes qui ont dû traverser des moments terribles avant de s'épanouir comme écrivain, pour nous, jeunes écrivains de l'époque, c'était, je pense, ça doit être la même chose pour un écrivain comme pour un garçon. C'était un éblouissement et la voie vers la liberté. Et les choses pesantes, on les rejetait. On lisait beaucoup. Ça, tout à coup, vers l'âge de 11-12 ans, on pouvait lire beaucoup, beaucoup et s'épanouir et savoir que l'écriture était un instrument de délivrance et de connaissance et de communication. Si on ne pouvait pas communiquer, si on était enfermé dans la solitude intérieure, vraiment.
Mais justement, vous avez dit que vous commencez à écrire très tôt, vers 10-11 ans. Et à quel moment, vous souvenez-vous, à quel moment vous vous êtes dit clairement « oui, je serai écrivain » ?
Vers cet âge-là, 9 ans, 8 ans, 9, je crois que c'est imprégné en vous, c'est très puissant. Ça commence par lire avant tout le monde et être obsédé par lire avant tout le monde et se dépêcher à lire. Et après, l'écriture rentre dans les doigts, je ne sais pas, elle rentre par l'observation.
Est-ce qu'on est obligé de lire pour écrire?
Bien, je ne sais pas, parce que je reçois des lettres de jeunes poètes qui sont à l'état pur, je dirais assez primaire, mais brut. très doués. Ils ne lisent pas, pour l'instant, mais je veux dire, c'est pas leur faute. Ils sortent de milieux difficiles ou ingrats, et puis ils ont déjà connu la délinquance, et ils sont peut-être aussi trop pris par les drogues. Et alors, mais je suis étonnée qu'ils ne s'intéressent pas à la lecture. Mais c'est quelque chose qui va se développer chez eux. D'ailleurs, on peut leur dire, il faut lire. Et ils vont le faire. C'est une question de. Vous savez, même aujourd'hui, on n'éveille pas le goût de la lecture assez, encore.
Mais c'est vrai. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un double mouvement et les deux sont obligatoires? Il y a ce que vous évoquez à travers ces jeunes, cette espèce de courant irrépressible qui est aussi un cri. Bon, il y a un cri dans l'écriture, c'est pas possible autrement. Et puis en même temps, il doit être canalisé et canalisé pour s'inscrire dans un courant plus vaste qui est celui des autres, oui. Écrivains qui ont précédé, ceux qui cheminent à côté. Oui. À quel moment vous êtes-vous vous senti, je dirais, à quel moment avez-vous senti que votre cri personnel allait pouvoir rejoindre un fleuve plus profond?
En écrivant, dès que j'ai commencé à écrire, à publier, à être publié, bien sûr, avant d'être publié, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui écrivent, beaucoup de manuscrits, beaucoup de choses. Et puis finalement, il fallait prendre de cela ce qui était un peu plus mûr, plus adulte, que de cette production enfantine et adolescente. Mais dès qu'on est dans l'écriture, plongé dans l'écriture, dès qu'on commence à publier des livres, on est content. Il y a un bonheur dans ça.
Ça se fait très jeune aussi, parce que bon, il y a cette affirmation intérieure. Il n'y a rien sans l'affirmation intérieure qui se fait à la fin des années 40, on va dire. Et puis ensuite, c'est le début des années 50. La vie change beaucoup à Québec à ce moment-là ou pas. Et vous, vous avez aussi votre propre vie qui change. Vous quittez l'école assez tôt, vers 15-16 ans, oui, pour faire des études commerciales, en fait.
Travailler.
Oui, pour travailler.
C'était l'époque où les garçons étudiaient et les filles travaillaient pour élever la famille un peu. C'était un peu un service familial, un service qu'on devait
rendre aider la famille.
Aider ses parents. Puis, évidemment, mes parents auraient accepté que je continue le cours classique, mais dès l'année de la versification, c'était coûteux. Ça devenait très coûteux. Mm-hmm. Et je ne pouvais pas me le permettre. Et à l'époque, les bourses étaient rares. Il n'y en avait pas, en fait.
Mais est-ce que vous avez quitté l'école avec soulagement ou avec dépit ?
Non, j'étais très peinée. Mm-hmm. Je pense que le fait de... Quand je voulais beaucoup étudier, et j'accordais beaucoup, comme beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, j'accordais beaucoup d'importance à l'étude, parce que je me disais, c'est tout ce que possède une personne. Et tomber dans le milieu très médiocre des gens du secrétariat et des gens comme ça, à l'époque c'était médiocre. Et être si loin de l'étude de la littérature, par exemple, et si loin de l'étude de la philosophie, si loin de tout. Mais ça m'a quand même poussée à étudier le soir.
Quand même un choc. Il y a quelque chose d'une réaction qui est suscitée à travers ce genre de choses, parce que vous reprenez, d'ailleurs, vous travaillez le jour, mais le soir, vous vous inscrivez même au cours de littérature à l'Université Laval.
Oui.
Et là, j'ai lu dans votre biographie, dans les notes, que vous êtes prise, en fait, sous la protection littéraire, en quelque sorte, de Jeanne Lapointe et Georges-Henri Lévesque. Est-ce que vous gardez souvenir d'eux, et quel genre d'encouragement ils vous ont donné?
Mais c'est là où c'est remarquable, parce que dans un milieu aussi étouffant, de rencontrer des personnalités rayonnantes et qui veulent le bien des jeunes générations. Et je pense que ce qui était très beau chez ces deux êtres-là, c'était de vouloir, malgré les problèmes, les différences sociales de l'époque, les problèmes sociaux, etc. Merci. C'était de vouloir quand même éveiller le goût de l'écriture et le goût de la lecture. Et ils voyaient quelqu'un qui était passionné. Bon, ben, ils encourageaient fortement cette passion. Mais je pense que c'est quelque chose dont moi aussi j'ai hérité. Je veux dire, si je rencontre quelqu'un qui est dans la situation dans laquelle j'étais à 14-15 ans, je fais ce qu'on m'a fait, j'essaie de donner ce qu'on m'a donné, parce que c'est tellement important. Et tout à coup, le monde s'ouvre.
Mais cette réputation qui est la vôtre de beaucoup encourager les jeunes écrivains, que vous avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, qui vous écrivent spontanément, c'était aussi un des critères du prix Mitchell, par exemple, entre autres choses. Il faut, à votre avis, avoir comme ça un modèle ou une sorte de parent littéraire, en plus de ses parents à soi?
Bien, nos parents nous donnent beaucoup, et puis souvent nous sommes incapables de reconnaître tous leurs dons, parce que c'est autre chose que nous voulons, toujours autre chose. C'est dans la nature humaine, et c'est normal d'un enfant intelligent d'exiger toujours quelque chose qu'il n'a pas dans sa propre culture, autour de lui, tout proche. Mais c'est important de trouver des êtres qui nous enrichissent, qui nous accordent une nouvelle vision de leur vie à eux, une nouvelle version aussi de ce que c'est que la compréhension littéraire, de l'écriture, la beauté des livres, la découverte des grands auteurs. Tout cela nous est donné comme par un enchantement, et Évidemment, la jeune personne, à ce moment-là, doit beaucoup, beaucoup travailler pour assimiler tout à la fois, parce qu'il y a quand même un départ de l'ignorance. Ouais. Donc, il faut que les bases ignorantes soient rejetées et que ça comporte toujours le rejet un peu de la famille, n'est-ce pas ? Mm-hmm. C'est inévitable. Et puis, après, il y a cette remontée de la vie, de la découverte de la vie autrement. Et je pense que là, c'est très important de rencontrer des gens comme Jeanne Lapointe, qui a d'ailleurs, de génération en génération, elle a soutenu des écrivains, que ce soit Nicole Brossard, moi, ou elle l'a soutenu pendant des années, des écrivains ou des poètes. Et c'est important.
On a tous besoin de plusieurs parents sur notre chemin.
Plusieurs rencontres. On a besoin de rencontres lumineuses qui déchirent ce voile qui nous tenait enfermés, soit dans l'ignorance, soit dans une captivité familiale dont il faut se dégager parce que le moment est venu pour grandir.
Là, on est à la fin des années 50 et bon, l'horizon se dégage, c'est le cas de le dire, à beaucoup de niveaux. Vous allez, vous, publier votre premier roman qui reste encore aujourd'hui un roman phénoménal dans l'histoire de la littérature québécoise, mais francophone, tout de suite, ça s'installe. C'est en 1959, vous avez 20 ans, c'est La Belle Bête. Mmh. Le livre est tout de suite traduit en anglais, en espagnol, en italien. Donc vous parlez de déchirement de voile, mais c'est plus que ça, il y a quelque chose d'un phénomène tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là ? Est-ce que c'était pour vous un étonnement ? Ou comment l'avez-vous vécu ? Parce que c'est vraiment comme un... On a l'impression d'un coup de tonnerre.
Oui, c'était un coup de tonnerre. C'était un peu dur d'être une femme, un jeune auteur, une femme, et de sentir au début, dans la presse, une grande hostilité, laquelle s'est apaisée avec les parutions en France et en anglais. Peu à peu, ça s'est apaisé.
Mais il y a une reconnaissance qui vient d'ailleurs, alors on n'a plus qu'à se taire.
Je pense que c'était pas bienvenu à l'époque. Il faut voir que bon, il y avait plusieurs écrivains féminins qui m'avaient précédé là, comme des phénomènes merveilleux comme Françoise Sagan, Françoise Malé-Joris. Elles avaient été plutôt bien accueillies par la France, mais nous, on n'avait pas cette attitude-là au Québec à l'époque. Il y avait Diane Giguère qui était remarquable, un remarquable jeune écrivain. Elle arrivait et il me semble qu'on voulait en faire un phénomène choquant quand c'était seulement un bon écrivain. C'était un écrivain doué. Il fallait simplement dire c'est un écrivain doué. Mmh. Et on n'avait pas de justice, de reconnaissance de voir des écrivains femmes, jeunes, apparaître sur la scène littéraire. Pourtant, nous avons été... agréablement soutenu par Anne Hébert et Gabriel Roy. Et on sentait leur solidarité.
Mais même quand vous faites allusion à Françoise Sagan ou Françoise Malé-Joris, oui, bien sûr, des phénomènes, mais un peu de condescendance aussi quand même en France. Très ambigu.
C'était très ambigu. Il faut quand même se souvenir de cette ambiguïté. Qui était un peu la moquerie aussi. Parfois, c'était la moquerie en disant que Françoise Sagan n'avait aucune moralité. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec son écriture. Et l'apparition de Minou Drouet était un petit prodige, mais tout le monde s'en moquait. Et ça, c'est vrai. Vous avez raison de souligner l'ambiguïté. Mm-hmm. C'était très ambigu.
Très difficile à vivre.
Oui.
Donc, difficulté finalement à simplement vivre son propre succès ou à être vraiment content, parce que c'est une lutte immédiatement.
Mais c'est une lutte de choquer, c'est une lutte pour celui qui choque l'autre. Il ne s'attend pas à cela. Et je ne sais pas, c'est comme on se sent comme attaquer soi-même, mais on n'a pas de possibilité, on ne sait pas comment répondre.
Puis c'est une belle bête littéraire aussi, c'est comme une sorte de bête qui sort et on voudrait mettre son mouchoir dessus, mais est-ce que ce n'est pas la littérature en soi, justement? Tout à l'heure, j'ai aimé, parmi toutes les phrases de vous que j'aurais pu citer, j'ai aimé celle où vous dites que quand un livre est bien écrit, il est forcément immoral, mais est-ce qu'on peut écrire pour ne rien dire? Est-ce que ça a vraiment, peu importe ce que ça produit, dès le départ, finalement, marquer son territoire?
Oui, il faut marquer son territoire, oui. Oui, il faut le faire.
C'était peut-être encore plus particulier pour vous, même si vous vous inscrivez dans le courant d'Anne Hébert ou de Gabriel Roy, comme vous l'avez dit, parce qu'on est quand même au Québec. Là, c'est la fin des années 50, début des années 60. Bien sûr, on s'en va vers la lumière et vers l'explosion. Mais c'est comme si vous aviez forcé l'ombre et l'obscurité. Il y a de ça avec cette parution aussi.
Il y avait ça et tout ce mouvement de l'écriture solitaire, la mienne à l'époque, heureusement, a été très suivi par un bondissement, un renouvellement d'œuvres littéraires écrites par des femmes, comme on l'a vu avec les années 60 et 70. Mais à cette époque, 59, c'était assez solitaire comme phénomène.
Ouais. Vous avez ouvert la porte.
C'est pas facile d'ouvrir la porte, mais il y avait quand même une certaine écoute puisque le livre a été traduit.
Mais justement, je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée en préparant cet entretien. Tout de suite, vous partez ailleurs, presque tout de suite. Enfin, vous écrivez un deuxième livre dans la foulée, Tête blanche, et puis vous partez à Paris. Pour écrire un roman poétique, The Day is Dark. Et cette année à Paris, en 1960, on imagine, je ne sais pas la description qu'en fait mon père de Paris des années 60, une ville de culture, Saint-Germain absolument extraordinaire. Bon, puis c'est quand même, alors là, le Saint-Germain des écrivains. Ça, on est en plein milieu de la période Sartre et Beauvoir, etc. Quelle est votre découverte de Paris quand vous arrivez, vous avez 20 ans, vous avez un très gros succès littéraire, déjà traduit dans diverses langues, et vous vous installez à Paris?
À l'époque, c'était pour la parution. Je suis allée pour la parution de La Belle Bête chez Flammarion, donc j'ai rencontré des écrivains de chez Flammarion, j'ai commencé à fréquenter des écrivains français. Mais je souffrais malheureusement d'une timidité vraiment maladive qui faisait que, au lieu de m'approcher des autres, je m'en éloignais. Et je regrette cette période parce que je me dis, j'aurais pu vivre des grandes amitiés, vivre de grandes choses au lieu de rester dans ma chambre. Éventuellement, j'étais avec plusieurs autres jeunes gens de mon âge qui étaient des boursiers. Mais c'était des boursiers en théâtre ou en peinture. Mais j'avais une collègue qui est décédée maintenant, qui était Claire France, qui avait écrit un roman qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait « Les enfants qui s'aiment ». Et je voyais cet écrivain qui était installé en France depuis un bon moment, depuis toujours, et qui ne voulait pas revenir, et qui était attaché à la France. Et elle m'apprenait beaucoup juste à la voir vivre, s'attachant à la culture française et étant moins inadaptée que moi je ne l'étais.
Ma question était aussi de se demander si c'est inévitable, en fait, pour un écrivain québécois, surtout à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé, enfin, peut-être ont-elles changé. Mais justement, d'aller, non pas se référer, mais se confronter quand même à Paris, au cœur de la littérature francophone. Bien sûr que Gabriel Roy l'avait fait, Anne Hébert au combien, etc. Est-ce que pour vous, c'était important de faire ça? Et est-ce que vous aviez cette comparaison qui se faisait ou pas?
Je trouvais ce premier séjour assez dur parce que nous avions peu d'argent. Et je dis nous les boursiers, et même il nous fallait pour survivre souvent vivre ensemble les uns avec les autres, ce qui était excellent parce qu'on apprend beaucoup de choses à vivre en commune, en communauté. Mais ça empêchait quand même cette solitude dont un écrivain a besoin. Et je trouvais que c'était une lutte. C'était un premier séjour que je ne sais pas à cause de ce problème de timidité et que je fuyais les gens au fond qui auraient pu m'aider. C'est absurde. Mais à travers cela, j'avais fait de belles rencontres. Je pense que ce n'est que plus tard que j'ai compris tout ce que ça m'avait apporté. Sur le coup, je me sentais très inadaptée. Je trouvais la France très loin de mes pensées. C'était pas le choc heureux et malheureux, mais une bonne provocation que j'ai eue quand je suis arrivée à Cambridge en 63.
Ouais.
C'était le contraire. Les choses me semblaient lasses et vieilles et je me sentais trop dynamique ou pas assez capable de parler aussi bien que les autres, je ne sais pas. Il y avait de m'exprimer aussi bien que les autres, parce que tout le monde était... Mes amis français étaient tellement éloquents, tous mes amis français. Et je ne sais pas, j'avais trop de sensations de timidité et de retrait pour profiter beaucoup de ce séjour. Mais après, c'est devenu très naturel pour moi d'être en France, très naturel, parce que là j'avais beaucoup d'amis, ouais. Et mes contacts avec les éditeurs étaient faciles, enfin bon, un tel point qu'à un certain moment j'y ai vécu 4 ans, donc c'était très très naturel, mais pas le premier séjour, c'était un peu raide, un peu difficile.
Mais les écrivains québécois pensent souvent que la reconnaissance passe par là, est-ce que c'était vous, pour vous, sur le plan strictement de la reconnaissance littéraire, est-ce que c'était ce que vous pensiez aussi à l'époque? Est-ce que c'est ce que vous pensez aujourd'hui aussi?
Bien, l'accueil des jeunes écrivains était, bon, c'était sympathique, mais c'était sympathique, mais je sentais cette ambiguïté dont vous parlez.
Oui.
Et qui faisait qu'une jeune femme écrivain, c'était une drôle de présence. Une drôle de présence et on n'était pas sûr de vouloir cet être-là autour de soi, surtout si on n'est pas très sociable. Mmh. On se rend la vie difficile.
Et surtout si on n'est pas dans la séduction.
Non, si on n'est pas dans ce milieu, vraiment.
Tout ce
à l'époque,
là,
ce milieu existait beaucoup quand même, ce milieu très littéraire et assez snob.
Oui.
Existait beaucoup, beaucoup. Mais j'ai eu des beaux moments. Je me souviens d'une conversation téléphonique, étrangement, dans l'hôtel où je vivais, avec Julien Green.
Ah oui.
Et il m'avait parlé de la Belle Bête, et je ne pouvais pas croire que Julien Green me téléphonait.
Mais lui se plaignait qu'on l'appelle toujours l'Américain 60 ans après aussi. Donc
oui.
C'était aussi quelqu'un qui venait d'ailleurs.
Oui, oui.
Mais justement, vous sentez tout de suite beaucoup mieux, comme vous dites. Non pas, on pourrait imaginer, enfin c'est pour ça que je vous posais la question, on pourrait s'imaginer que bon, c'était à l'époque en tout cas le berceau de la littérature francophone. Mm-hmm. Mais non, vous sentez tout de suite mieux, vous l'avez dit, à Cambridge. Donc en 1963, vous avez 24 ans, vous recevez grâce au critique américain Edmund Wilson une bourse de la Fondation Guggenheim, la première, et vous vous installez aux États-Unis, alors là, dans la région de Cape Cod, d'abord à Cambridge, en Nouvelle-Angleterre, avec des amis, la peintre Mary Meix et la journaliste Barbara Deming. Et puis ensuite, vous migrez près de Cape Cod, où vous écrivez une saison dans la vie d'Emmanuel, bien sûr, qui est un roman qu'on va évoquer juste après. Ça, c'est une période qui a été très, très stimulante pour vous, cette période-là de cette immigration plutôt vers les États-Unis, alors que c'est une autre langue.
Oui. La première année était difficile parce que c'était à Cambridge, c'était au moment de toute la... des grands combats
oui,
contre la guerre. Ensuite, c'était bien parce qu'il y avait aussi toute la reconnaissance des droits des Noirs et des femmes. Et enfin, c'était un bouillonnement que j'attendais.
Et certainement beaucoup plus stimulant qu'à Paris.
C'était très stimulant. Et puis d'être un an toute seule à Cambridge, ne connaissant encore personne, c'était peut-être une épreuve, parce que beaucoup de solitude, mais j'ai vraiment vécu, je vivais avec beaucoup dans le milieu étudiant, mais, et je fréquentais beaucoup d'étudiants noirs. C'était un monde nouveau, et un monde vraiment aussi dur qu'il était beau. C'est vraiment, c'était ça.
Et c'est là que vous migrez vers la côte.
C'est que j'ai rencontré.
On voit cet océan qui vous attire irrésistiblement pour écrire une saison dans la vie d'Emmanuel.
Oui, c'était toute une série de rencontres liées à Edmund Wilson qui m'avait d'abord invité à écrire chez lui parce qu'il avait un studio pour qui appartenait à son fils qui était écrivain. Et il me l'avait prêté pour écrire pendant quelques jours. Elena, sa femme, était extrêmement gentille et accueillante. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à vivre là-bas, parce qu'il y avait une communauté d'artistes impressionnante.
Mais tout de suite, cette ouverture, justement, de la côte est américaine, qui vous sied quand même.
Parce beaucoup.
C'est beaucoup votre univers aussi. Où est cette affinité qui vous stimule? Est-ce que c'est à la fois c'est les gens, c'est aussi
mais c'était des gens qui vivaient pour leur pour le travail artistique, pour la ce dont j'avais rêvé. Je me semble que je rêvais depuis l'enfance de rencontrer des artistes qui vivaient que pour ça, contrairement à mes tantes qui avaient dû abandonner le piano, même si elles étaient prodigieuses. Elles avaient dû abandonner le piano parce qu'ils ne pouvaient pas vivre pour cela. Et là, c'était des hommes et des femmes qui, encore jeunes, et qui vivaient pour cet art qu'ils avaient choisi. C'était pour moi miraculeux, absolument miraculeux.
Et tout ça en anglais?
Oui.
Mais ça ne vous dérangeait pas? C'était pas. Est-ce que ça a créé un décalage, en fait, de vivre le quotidien en anglais, ce que vous faites toujours, là? Parce que maintenant, vous habitez à Key West depuis très longtemps aussi. Ce décalage de la vie en anglais et de l'écriture en français, ça se fait comment?
Bien, pour moi, j'aime tellement écrire en français. Ça m'est tellement naturel. Mais il y a eu une période d'adaptation. Mais elle était fertile puisque j'ai pu lire en anglais tout ce que je voulais lire. Et puis pendant la période où j'étais à Cambridge, Edmund Wilson me prêtait sa carte de bibliothèque et puis j'étais toujours à la bibliothèque et je pouvais lire tout ce que je voulais enfin. Et c'était un moment d'étude, de réflexion. J'avais l'impression d'être très solitaire, mais en même temps, j'apprenais beaucoup de choses. Donc, je n'avais pas le temps de penser à la solitude.
Marguerite Yourcenar a dit que c'est parce qu'elle vivait dans l'anglais, y compris dans sa vie intime et autour d'elle, qu'elle avait tellement souci de sauvegarder le français et d'en faire, en fait, un jardin à soi. Est-ce que vous avez parfois cette impression?
Bien, je connaissais des personnes... artiste près de moi qui parlait beaucoup le français et la famille Wilson aussi et plusieurs familles qui étaient là.
Oui, puis sur la côte est américaine, ça reste.
Oui, j'allais encore à la bibliothèque française à Boston, mais dès qu'on rentre dans l'atelier d'écriture et qu'on est plongé dans le livre. Je ne sais pas, la langue, elle est là, elle est toujours présente. Et puis, elle nous accompagne de son immense travail, de son immense présence tous les jours. Et c'était une telle reconnaissance à la vie que d'éprouver que je pouvais écrire. Faire seulement cela.
Alors justement, 65, bon, c'est l'apparition d'une saison dans la vie d'Emmanuel. Le livre, là aussi, est un autre grand phénomène reçu ici avec un prix France-Canada, paru chez Grasset, qui reçoit le prix Médicis également l'année d'après. Mais vous, l'apparition de ce livre-là, qui reste aussi un monument de la littérature francophone, comment est-ce qu'il est venu à vous et comment, cette fois, avez-vous vécu la sortie? Mieux qu'Une belle bête ou...
D'abord, il a été refusé 4 fois. Et c'était très décourageant. Et
perturbant, lui, là aussi. Est-ce que c'était un livre perturbant ou
Je pense qu'il a été refusé parce que c'était très anti-religieux. Mm-hmm. Mais enfin, c'était pas démoniaquement anti-religieux, je crois pas. C'est difficile quand on est l'auteur de savoir ce qui a tellement provoqué de colère. Mais je sais que les éditeurs le repoussaient l'un après l'autre, jusqu'à ce que le fantastique et novateur Jacques Hébert le prenne tout de suite.
Les mêmes raisons pour lesquelles il avait été refusé.
Oui.
C'est ça l'histoire des livres aussi.
Oui.
Ben oui.
Oui. Oui.
Voilà. Il suffit de tenir son bout.
Oui. Oui, il ne faut pas se décourager.
C'est important. Mais ma question, précisément là-dessus, est comment un livre vient d'un autre? Est-ce que les livres se produisent, je dirais, les uns des autres, et est-ce que le suivant naît du précédent? Comment viennent-ils à vous? Par le biais d'un personnage ou par le biais d'une idée?
Je pense qu'on a ces obsessions, on a l'obsession de traduire un univers, un petit groupe d'êtres, et puis ça devient plus grand, et se rapprocher de plus en plus de ce qui est très, très humain, très fragile, dans ces portraits qu'on essaie d'esquisser. Et c'est la raison pour laquelle j'écrivais une saison, c'était surtout pour faire le portrait de Jean Lemaigre, qui encore aujourd'hui est un enfant. Il y a des enfants poètes partout qui vivent dans des situations terribles et avec des familles qui ne les comprennent pas et des tensions politiques terribles aussi. Alors, je ne sais pas, moi je voulais raconter l'histoire de Jean Lemaigre et peu à peu, tout le monde s'est rassemblé autour de lui, sa famille, ses amis, ses ennemis, la société dans laquelle il vivait. Mais moi, j'avais l'impression que c'était une histoire assez poétique et puis humoristique aussi. Contemporaine et poétique surtout. Je me disais, ça peut se lire comme un conte, comme on avait lu Le Torrent d'Anne Hébert.
Est-ce que finalement, Hélène Dorion, assise à votre place, a dit qu'un livre naît de la faille du précédent, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on a écrit un livre, que ça y est, on l'a fait, on y est arrivé, et puis non. Alors on recommence, en fait. Mmh. Bon. Est-ce que finalement, au bout du compte, tous vos personnages sont tous les frères et les sœurs de Jean Lemaigre, finalement? Ils font tous partie de la même famille, d'une certaine façon.
Oui, elle a raison, Hélène, que d'une faille naît un autre personnage et un autre personnage, de l'inachèvement d'un caractère, d'une personnalité, d'un personnage, naissent d'autres personnages aussi. Oui, ce sont, sans que nous soyons trop conscients de cela, ce sont des frères et sœurs, d'autres parrains, d'autres parents aussi. Mais je crois que ce qui est intéressant dans notre travail, c'est que nous apprenons à grandir nous-mêmes avec les personnages que nous décrivons, parce qu'ils ne sont pas fixes dans le temps. Ils bougent. Et bon, Jean Lemaigre court au-devant de son destin, puisque son petit frère, ses petits frères et peut-être sa petite sœur, tout le monde va continuer, va poursuivre son destin inachevé. Mmh. D'une manière heureuse ou moins réussie que lui, mais c'est que son parcours à lui, si, même s'il est très court, mais je pense qu'il y a toujours une évolution, et c'est cette évolution
qui est la vôtre aussi,
qui
est
celle
de
l'auteur,
celui qui écrit.
Oui, qui est celle de l'auteur et qui est celle des personnages qui se mettent à être mobiles dans le temps, avec le temps.
Est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher vraiment? Parce que Neil Bissoundat aussi, assis à votre place, par exemple, disait que c'est les personnages qui viennent à lui un jour et puis ils l'emmènent. Ou est-ce que c'est une identification entre vous et ce personnage-là? Qui tire l'autre à soi?
C'est difficile à exprimer lequel tire l'autre. Mais il est certain que pour décrire un personnage, il faut bien le connaître, bien connaître son âme, et je dirais en devenir absolument possédé. C'est ce qui arrive, je crois. On est possédé par le personnage, et la dépossession par l'écriture fait qu'on va s'attacher à quelqu'un d'autre tout de suite après. Ne pas rester tendu sur cette possession, mais aller vers d'autres êtres qui, un peu comme on ferait dans la vie, on rencontre quelqu'un, on l'aime beaucoup, mais on va vers d'autres grâce à cette personne-là. Mais d'abord, l'écriture est un acte où on devient très possédé par l'autre que l'on veut décrire.
C'est une notion de possession, dépossession.
Oui.
Oui.
Il nous habite. Il nous habite.
C'est la période aussi. Alors donc après, bon, une saison dans la vie d'Emmanuel devient aussi le premier des films qui soit tiré de votre œuvre par Claude Weiss, qui reçoit le prix de la quinzaine des réalisateurs en 68 pour le film qu'il en a fait. Et on aura un autre, Le Sourd dans la ville, qui deviendra aussi un film. Michel Dansereau, donc c'est le deuxième film né de votre œuvre. Mais c'est la période où vous écrivez aussi, de 68 à 70, les manuscrits de Pauline Archange que vous évoquiez tout à l'heure. Là où c'est un retour, elle aussi, Pauline, c'est une petite sœur de Jean, c'est aussi une
plus
sœur...
combative, plus combative, et qui va durer, et qui va
s'affirme aussi.
S'affirmer.
S'affirmer. Mais elle n'est pas très loin de Rebecca aussi. Il y a une très grande sororité où cette famille qu'on évoquait entre les personnages se tisse comme ça d'un livre à l'autre. Et c'est aussi cette période où vous partez vous installer en Bretagne jusqu'en 1975. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, immédiatement, dans votre parcours littéraire, il y a immédiatement, avec l'apparition de la publication et de votre statut d'écrivain reconnu, tout de suite l'ailleurs. Parce que vous partez pour Paris, puis vous revenez, mais vous partez sur la côte Est, vous allez en Bretagne, vous revenez, vous repartez, puisque vous allez vous installer à Key West à partir de la fin des années 80. Est-ce que c'est très important pour vous, ce lien entre l'écriture et l'ailleurs? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet éloignement, comme d'autres, je dirais?
Oui, nous avons beaucoup d'écrivains qui en ont besoin.
Oui, mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, précisément, vous, dans cet ailleurs-là?
C'est une sorte de paix intérieure. C'est une sorte de distance, mais au sens où pourrait l'employer Marguerite Yourcenar. Je veux dire, elle était toujours ailleurs, mais c'était toujours pour travailler beaucoup, et sans distraction, si possible. Et c'est pour ne pas être confinée dans les anciennes raideurs, les anciennes peurs. C'est pour se renouveler aussi. Je pense que l'écrivain a très besoin de ça. Mais en même temps, nous avons des écrivains qui restent à la maison et qui font des choses merveilleuses. Donc, ce n'est pas un principe...
Non, je n'en parlais pas comme un principe, mais vraiment, j'ai uniquement vous. C'est ce que vous y trouvez qui m'intéresse ici.
Oui.
Et puis aussi, peut-être, est-ce qu'il faut aller loin pour voir son pays de près? Est-ce qu'il faut aller loin pour se voir soi-même de près? Quel rapport entretenez-vous justement avec cette proximité du lieu d'origine?
C'est peut-être, bon, comme on lit Kerouac, il ne peut pas rester tranquille, il faut toujours qu'il parte un peu plus loin pour écrire, n'est-ce pas? Je crois qu'il représente bien ce type de l'écrivain qui aime errer et prendre des connaissances ailleurs, trouver ailleurs une magie, des connaissances nouvelles.
Vous avez employé le mot de paix, parce que lui cherchait, on peut chercher ou imaginer chercher dans le mouvement l'intranquillité. Évidemment, comme disait Rousseau, les idées viennent en se mouvant. Bon, enfin, c'est le promeneur. Et puis, on peut trouver l'inverse, c'est-à-dire la paix intérieure.
Il y a un développement de cette paix quand on s'éloigne. D'abord, il faut compter sur ses propres ressources. et enlever les images, pendant quelque temps enlever les images reçues, bien sûr en produire d'autres, qui sont, en connaître d'autres qui sont aussi des idées reçues, mais des images reçues, mais c'est de notre culture. Moi, j'y trouve un refuge pour l'écriture, pour mieux écrire peut-être.
Et en même temps, quand vous vous êtes impliquée, je dirais, pas seulement dans votre propre littérature, parce que ce milieu des années 70 et les années qui suivent sont des années pendant lesquelles vous prenez la plume pour écrire dans Le Devoir. Mm-hmm. Et bien sûr, on va voir un livre en 96 publié de là, Les notes de l'écrivain. Est-ce que c'est le parcours d'un écrivain, note américaine, est-ce que c'était important pour vous justement de prendre position? Et c'est aussi un regard à la fois sur ce que vous faites, sur mmh. votre propre cheminement, mais c'est aussi un regard sur le Québec, là, de la fin des années 70.
Oui.
Il est très différent de celui que vous aviez connu.
Oui, parce que là, tout était explosif au Québec. C'était la culture, l'arrivée de la littérature. En général, c'était très puissant. Vraiment une époque extraordinaire. Et évidemment, ça me permettait, ce parcours d'écrivain, notes américaines, ça me permettait de revoir les années de combat de Cambridge, de revoir les étudiants dans la rue, de revoir tous ces événements tragiques que nous avons vécus à l'époque, la mort des Kennedy, Malcolm X... L'arrivée est splendide de Martin Luther King et en même temps cette cruauté de ces assassinats successifs. Mais les étudiants étaient, comme moi, très, très, très marqués par ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient. Donc ce petit livre, Parcours d'un écrivain, me permettait de retrouver cette ère... où tout le monde est un peu semblable, cette ère de ce temps-là qui est un peu semblable à notre ère de tourment, si je puis dire. Et c'était très proche de ce que nous vivons maintenant. Mm-hmm. Et au moment où je l'écrivais, je sentais que c'était proche encore.
Dans quel sens est-ce que vous faites la comparaison avec aujourd'hui, justement ?
Bien, j'essaie de la faire dans les livres comme Soif, tout ça. Je pense qu'on est devant de grands espoirs, de grandes puissances de destruction, mais aussi de grandes puissances de création, comme nous étions pendant ces années 65, entre 65, 70, 75. Et évidemment, ces jeunes gens qui étaient dans les rues dans les rues de Cambridge et qui luttaient pour l'égalité des Noirs, ils sont encore là, les nôtres. Nous avons encore des jeunes gens et des gens moins jeunes aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, qui éprouvent le même désir d'égalité, et même c'est encore plus prenant.
La candidature, enfin plus que ça, la candidature de Barack Obama, par exemple, aujourd'hui, parce que bon, vous êtes toujours aux États-Unis aussi, vous voyez ça comme une victoire ou comme une interrogation pour une étape suivante?
Il faut que ce soit une victoire. Mmh. Mais même si
par rapport à ce Cambridge que vous évoquez.
Oui, mais il y a eu des grandes choses à cette époque. Il y a eu. C'est dans mes livres que j'essaie le plus de l'exprimer parce que je pense que. Il y a eu de grandes marches pour la paix, de grandes marches pour l'égalité des Noirs et pour l'égalité des femmes. Et il y a eu de grandes marches dans les rues. Et là, parmi ces gens-là, il y avait beaucoup de blancs ordinaires. Beaucoup de blancs ordinaires. Et aujourd'hui, nous avons encore cette familiarité avec cette société... des gens qui ont simplement de la conscience, voilà. Ils sont pas nécessairement intellectuels. Ce sont des gens qui ont la conscience qu'il faut que le monde soit meilleur. Et on avait ça dans les rues à l'époque, et ça recommence. On le voit maintenant aussi. Ça recommence, c'est même là très présent. Oui. Et c'est l'espoir de sentir que la conscience pour la survie de la planète, pour l'égalité, pour la justice, continue à travers les générations et avec peut-être encore plus de force. Parce que le passé a donné sa leçon. Hein.
Il n'en finit pas.
Alors, je pense qu'on a beaucoup appris de Martin Luther King. Alors, on continue d'apprendre. En ce moment, on apprend avec Obama ce qu'on a déjà su avec Martin Luther King. Mais
à part qu'Obama a dépassé le rêve même de Luther King. Parce que peut-être que Luther King ne même pas rêvé dans son rêve à lui.
C'est très étonnant ce qui se passe. C'est très étonnant et ça montre que notre conscience, la conscience humaine, sociale, évolue. Elle évolue. Si sombre soit-elle par moments, si attaquée, elle évolue quand même. C'est quand même l'espoir de notre temps, n'est-ce pas?
Ça, c'est très frappant, justement, dans la fresque dont nous allons parler, que vous écrivez depuis 1995. Juste ces années-là, qui sont la fin des années 70 et les années 80, qui vont précéder le moment où vous allez vous installer beaucoup plus, définitivement, volontairement, en tout cas, à Key West. 79, le sourd dans la ville, quand même avec un deuxième prix du gouverneur général en 79, suivi d'un livre particulier, Vision d'Anna, en 1982, prix de l'Académie française. Et est-ce que, quand vous revenez à Montréal, dans la fin de ces années 70, vous retrouvez un Québec complètement différent? Est-ce qu'à l'époque, déjà, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de victoire de tous ces mouvements auxquels vous avez participé par votre écriture, bien entendu, par votre modèle, par le modèle que vous avez suscité, mais aussi par toutes vos actions, et qui finalement se concrétisaient et se matérialisaient dans la vie québécoise, là. Pas seulement américaine, mais vraiment québécoise.
Mm-hmm. Oui, oui, vous avez raison, c'était des années extrêmement créatrices, ces années 70, au Québec. Elles le sont encore. Mais je veux dire, ces années 70 étaient profondément radicales et changées, vraiment transformées la société pour le meilleur. Mais on ne peut pas espérer que l'évolution va demeurer aussi grande. Tout à coup, il y a une... Je veux dire, ce qui arrive, c'est que l'art qu'on voudrait, celui qui gouverne tout, on voudrait tant que les choses créatrices et artistiques gouvernent tout. Hélas, il y a retombé parce que les intérêts de médiocrité balayent tout cela. Et bien de nos auteurs des années 78, 70, je veux dire, sont plus amers aujourd'hui. Mais c'était pour nous, écrivains, de très belles années.
Oui, ils sont très amers et en même temps, il y a une fulgurance qui s'est passée au Québec. On a peut-être tendance à oublier aujourd'hui. Et bon, même s'il y a beaucoup de difficultés, on va dire, on est en ce moment dans une situation vis-à-vis de l'art difficile politiquement, en pleine élection en plus. Et tout ça, quelle est pour vous justement la part d'influence de la politique et de la politique culturelle dans la réalité artistique du pays? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à militer, il faut continuer à se battre?
Besoin de nos artistes. C'est incroyable combien on a besoin de nos artistes. Et nous avons tant d'artistes ici, tant de bons écrivains, tant de bons artistes éblouissants, reconnus à l'étranger, et quand ils ne sont pas reconnus à l'étranger, souvent ils devraient l'être. Et alors que nos gouvernants oublient cette manne, cette générosité des artistes québécois, c'est inexcusable. Puisque c'est ce qui fait la société. On ne peut pas priver la société de cette lumière-là.
Justement, c'est là qu'elle est la régression dont vous parlez.
Mm-hmm.
Est-ce que ma question à travers ça était, est-ce que c'est encore très important pour vous d'être un écrivain engagé? Est-ce que c'est un devoir de l'écrivain et comment doit-il le faire? Parce que l'engagement était différent dans les années 60, 70. Mmh. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une lassitude ou peut-être le fait de considérer que c'est moins important. Est-ce que pour vous, ça reste important et comment doit-on le faire?
Ça reste très important et il y avait dans les années 70 et même 80, il y avait beaucoup d'émissions littéraires. Et il y avait beaucoup de... À Radio-Canada, par exemple, les écrivains pouvaient écrire des textes, pouvaient publier, écrire des textes dramatiques. Ça a donné naissance à beaucoup d'entre nous, une grande possibilité d'écriture, puis en plus d'élargir nos champs d'horizon, d'écrire pour le théâtre. Aujourd'hui, vous n'invitez plus les écrivains à écrire noblement pour la télévision ou pour la radio. Vous ne faites plus cela, c'est oublié. Donc c'est triste, c'est triste parce que d'abord ça aiderait nos écrivains à vivre. Hein. Et comme on diminue les bourses de plus en plus, on étouffe. C'est comme étouffer l'essence artistique de ce pays. C'est lamentable.
Comment en est-on arrivé à confondre la culture et le divertissement?
Eh bien, justement, c'est qu'on ne comprend pas que l'écriture, la littérature, ce sont des arts. On n'écrit pas pour divertir, on n'écrit pas pour amuser. Il se peut que ce soit divertissant et amusant, mais ce n'est pas le but. Et le but, c'est d'être avant tout quelqu'un qui a une complète possession de son art, qui sait dominer sa maîtrise, qui maîtrise un art extrêmement complexe et difficile. Et ceci ne touche pas du tout le monde médiatique dans lequel nous vivons.
Alors justement, une autre question, vous avez évoqué les dramatiques pour la radio, pour la télévision. Vous avez fait plusieurs scénarios et vous avez écrit 5 pièces de théâtre. Comment est-ce que vous choisissez ou comment est-ce que ça s'impose à vous d'écrire plutôt un roman ou plutôt une pièce de théâtre ou plutôt un poème? Est-ce que c'est des choses différentes qui s'expriment à travers ces différentes formes ou est-ce que c'est une évolution de la forme littéraire?
Je pense que ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est de... On peut couvrir beaucoup, beaucoup de choses différentes. C'est toujours l'écriture, c'est toujours l'essence humaine qui nous intéresse, c'est toujours la tragédie de vivre, le bonheur de vivre, les conditions dans lesquelles on vit. Et c'est une élasticité. Nous avons besoin de cet éventail.
C'est toujours le médium de l'écriture.
C'est toujours le même médium et qui se raffine ou bien qui nous... nous aide nous-mêmes à découvrir combien il est vaste, combien il nous permet de dire des choses.
Françoise Verny, qui est une éditrice française bien connue, disait « Nous faisons dans l'âme humaine, c'est fragile ». Est-ce que vous diriez ça? C'est ça aussi, c'est le médium dans lequel passe une chose finalement, l'âme humaine.
Et l'âme humaine. Mais comme on ne peut le saisir qu'à travers beaucoup, beaucoup de livres et beaucoup de livres, on recommence sans cesse.
Alors en 1988, donc je l'ai dit, vous partez à Key West dans cette période-là. C'est aussi le moment où Key West va devenir le théâtre enfin la toile de fond notamment d'une pièce de théâtre, Lille, mais qu'on va aussi reconnaître, si on veut la reconnaître, cette île presque parfaite, même si elle est, comme vous disiez, traversée par des ouragans, etc., de cette fresque extraordinaire et immense que vous avez commencé en 95 avec Soif, et vous nous aviez annoncé que ce serait une trilogie. Oui. Donc, Soif paraît en 95, ensuite en 2000, et c'est le prix du gouverneur général de l'année qui suit, 2000 dans La foudre et la lumière, et c'est le prix du gouverneur général. Quelqu'un m'a dit l'année dernière, je vous dis ça, pendant la remise des prix du gouverneur général l'année dernière, « Oh, les années où il y a Marie-Claire Blais ou Michael Ondaatje, c'est foutu. » Parce que c'est sûr que, bon, c'est un peu plus difficile, mettons. Donc... Oui, bien sûr, il y a ces prix qui sont importants et je pourrais citer les autres. Simplement, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. De notre côté, à nous, lecteurs, on l'a perçu comme ça, cette trilogie avec une centaine de personnages, cette écriture tout à fait nouvelle, comme si vous aviez longtemps réfléchi, certainement, évidemment, à trouver la forme adéquate pour transmettre le fond. Et cette forme, c'est que on commence une phrase qui se finit finalement peut-être 100 pages plus loin, et dans laquelle sont mêlées les vies de personnages dans différentes conditions, dans différents coins de la planète, etc. Et dont les vies sont complètement tissées les unes aux autres, comme dans l'humanité. Et enfin, troisième caractéristique. Que vous avez évoqué aussi tout le long de cet entretien, cette proximité constante entre l'ombre et la lumière, le désespoir et la foi, si on définit la foi comme l'espoir sans raison ou sans preuve, mais une quête intérieure qui est en fait finalement la seule issue à un monde très violent et que vous dénoncez violemment aussi. Alors, un livre, un deuxième, le troisième tome à Augustino ou Le cœur de la destruction. Et puis, oh miracle, non, ce n'est pas une trilogie puisque ça continue avec La naissance de Rebecca, L'ère des tourments qui est parue au printemps dernier. J'aimerais vraiment que vous nous parliez de cette aventure qui est en cours puisque là vous écrivez le cinquième tome. Comment est-ce que c'est venu à vous et qu'est-ce que vous vouliez raconter de cette fresque, comme disait un de mes collègues, dans la pliure du XXe siècle, cette humanité en effervescence.
Mais je pense que ce que nous vivons, nous tous, en ce moment, c'est quand même... ça nous fascine autant que ça nous fait peur. Et un écrivain qui est témoin de son temps... tient beaucoup à écrire ce mouvement. C'est incroyable. Nous vivons tellement rapidement ce que nous vivons tous. Et en quelque sorte, avec la vie moderne, très moderne et maintenant, nous ne pouvons plus nous échapper les uns des autres. Nous ne pouvons plus dire « je ne sais pas qu'il y a cette pauvreté en Inde, on ne peut pas l'éviter, on sait tout ». On sait tout. Nous sommes des êtres devenus partie de l'univers, qu'on le veuille ou non. Et pour moi, rassembler tous ces personnages qu'au début, je voyais séparés et dans ma tête, mais tout à coup, je les ai vus comme une partie d'un grand cœur, d'une vaste humanité qu'on peut quand même décrire, décrire dans son mouvement. Dans son mouvement... Bon, je ne sais pas, je repense à Soif. Tout le monde est très... On a une centaine de personnages et dans les autres livres, ils sont... à chaque livre...
Il y a des liens aussi,
il y a des liens
eux,
entre tous, mais à chaque livre, d'autres apparaissent. Mm-hmm. D'autres apparaissent toujours. Et c'est comme l'humanité croit, elle ne peut plus cesser de croître. En fait, on a vu les parents, mais tout à coup, on voit les enfants qui ont grandi, qui ont 20 ans, et puis et là, qui produisent eux-mêmes une autre génération et d'autres façons de voir la vie et le monde. Mais tout le monde court vers ensemble, marche ensemble, parfois à contre-courant, mais ils sont ensemble, les bons et les mauvais, les bourreaux et les victimes, et tout le monde est réuni. Je pense que c'est comme ça que nous sommes dans cet univers qui est le nôtre aujourd'hui. Évidemment, c'était dans Soif, par exemple, c'est très important pour moi de montrer qu'il y a des individus qui restent comme en arrière, qui ne font pas partie d'une course. La course est inachevée. La course va brutalement s'arrêter. C'est la course de Jacques avec le sida. C'est la course des petits délinquants de la rue Bahama qui vont finir en prison. Mais quand même, tout, même eux vont, dans les autres livres, poursuivre une autre vie, quelque part. Poursuivre une vie secrète. Même Jacques, qui meurt du sida et qui n'est pas...
Une vie invisible aussi, c'est toute une dimension, ils sont ailleurs. En fait.
Oui, oui. Tout se passe à côté, la vie continue. Mais tout doucement, il s'étiole, il disparaît. Mais on verra plus tard que, peut-être dans l'autre livre, peut-être dans le même, Tanjou qui regarde le soleil couchant un soir et qui pense, tiens, il est là, je le sens près de moi. Il y a beaucoup de... La vie continue. Dans ces livres-là.
C'est une pulsation aussi, pas seulement un canevas avec. Oui, les, et puis il y a cette notion aussi, au départ assez exigeante. On a l'impression, comme lecteur, que comment on est déstabilisé d'abord par la forme, parce que l'écriture, c'est d'abord une forme qui transmet un fond. Alors il faut trouver la forme juste pour transmettre le fond, justement. Et là, la forme d'abord déstabilise. Vous avez forcément travaillé là-dessus. Comment en êtes-vous arrivé à choisir cette forme continue, justement, qui, on a l'impression qu'on va perdre notre souffle, mais c'est en fait la pulsation du monde. Mmh. Et puis, à un moment donné, on est pris. On est pris dans la lecture, et voilà.
C'est notre souffle à nous qui est comme fébrile. Et fébrile comme l'est notre époque, n'est-ce pas ? Qui court, qui haletante. Mais en même temps, se posant toutes les questions, comme elle ne l'a jamais fait, n'est-ce pas ? Et même les tout-petits-enfants, qui n'ont pas l'air d'avoir une vie importante, vivent beaucoup déjà, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Ils ont une intégrité de pensée. Et ils savent qu'ils sont au monde pour quelque chose, même si c'est pour être détruits ou pour détruire. Dans le cas, par exemple, d'un garçon comme Carlos ou Lazaro, qui incarne beaucoup de violence en lui. Il ne sait pas pourquoi il incarne cette violence, mais elle est en lui. Et il, comme il dit, je veux brûler la terre. Et nous vivons avec des êtres brûlés et qui vont nous brûler et qui sont brûlés eux-mêmes, comme ces personnages-là. Mais il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont des gens qui vivent sereinement à la maison et qui écrivent des livres ou qui gagnent leur vie dans une bibliothèque. Enfin bon, il y a toutes sortes de comparaisons à l'être ordinaire aussi.
La vision que vous en donnez à travers le fait que l'écriture est fluide et ininterrompue, c'est qu'ils sont tous interdépendants. Effectivement, comme vous disiez, on ne peut plus ne pas savoir que pendant qu'on est assis ici, en même temps, l'ouragan est à La Havane et puis les Indiens sont noyés sous la mousson.
Mais c'est cela qui est peut-être le réseau du livre. Le cœur est multiple. Et il n'y a plus qu'une. Avant, on entendait beaucoup le cœur qui n'avait. Dans ce cœur. Des êtres humains, il y a, on entend des voix qu'on n'entend pas souvent. Je veux dire, il y a des gens qui parlent dans ces livres-là qu'on n'entend pas. On les entend dans ces livres-là, mais on oublie qu'ils ont leur propre voix. Mmh. Alors quand soudain leur voix se mêle, que la voix du prisonnier dans une prison en Californie se mêle à la voix de la personne qui l'a jugé. Tout est, mon Dieu, il ne peut naître de cela que des liens très, très forts, malgré tout.
C'est ça, parce que vous les traitez tous j'allais dire à égalité, mais en vérité, c'est un micro tendu à chacun d'eux. Mais dites-moi comment vous, l'écrivain qui est derrière ça, vous vivez avec eux ? Tout à l'heure, vous m'avez dit, je voulais voyager cet été, mais je ne peux pas parce que je suis trop prise dans le travail. C'est très exigeant aussi pour vous. Est-ce que parfois vous perdez le fil entre tout le monde ou... Parce que là, je parle de la discipline du travail lui-même. Mmh. L'écriture, c'est aussi beaucoup de construction, beaucoup d'architecture,
oui.
D'obsession, comme vous l'avez dit. On est habité. Et là, habité pas par un personnage, mais par... Là, maintenant, ils doivent être rendus 150.
Mmh. Oui.
Comment est-ce que vous vivez avec tout ça ? Comment faites-vous pour vous y retrouver ?
Bien, c'est ma vie, c'est naturel pour moi. Mais je ne pense qu'à ça. Je veux dire, quand je travaille, je ne pense qu'à ça, nuit et jour, en fait. Mais en même temps, il y a une grande joie à écrire et à parler d'êtres qui ne seraient pas observés, ni même remarqués. Bon, je pense ici à des personnages comme Petite Cendre et même Rebecca, bien qu'elle soit assez
jeune métisse,
elle s'affirme beaucoup.
Ouais, oui.
Toute petite, elle sait déjà s'affirmer. Mais j'aime aussi reprendre leur histoire à partir de leurs ancêtres. Pas seulement. Rebecca est une petite fille noire de 5 ans. Elle n'a pas beaucoup de passé. C'est faux. Elle a un grand passé. Elle a le passé de sa mère.
Elle a le passé. Elle est noire à moitié. Enfin,
oui.
Elle se retrouve métisse parce qu'elle n'a pas choisi de l'être. Mm. Sa mère non plus, finalement. C'est, elle est née d'un viol d'un homme blanc et sa mère est noire. Mais c'est forcément.
Mais elle ne sait pas.
Elle ne sait pas. Donc il y a tous les gens qui sont derrière elle et elle ne le sait pas.
Oui, c'est ça. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas le tableau de son arrière-vie. Elle ne le connaît pas encore. Mais. Il est certain qu'elle sent qu'elle est dans une. Qu'elle est, elle, née pour être libre. Et sa mère n'a pas vécu la même chose.
Mmh.
Et son grand-père non plus. Son grand-père était. Le pasteur Jérémie était à l'époque. Était là parmi ceux qui étaient humiliés. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce qu'elle est, elle n'est pas humiliée. Mmh. Elle existe. Elle existe fièrement.
Alors, je cherchais. Rapidement, des mots de quelqu'un d'autre pour parler de votre fresque extraordinaire, incantatoire. On a beaucoup parlé de l'incantation, parce que c'est vrai qu'il y a un cœur, mais il y a aussi une dimension de quête spirituelle, beaucoup. C'est Tristan Malavoy-Racine, donc, qui dit « On entend tout, les cris de la naissance, ceux de la maladie et de la mort, les querelles entre la religion et la science, le miracle renouvelé de la nature ». La prostitution comme les avancées du statut de la femme, la furie des grandes batailles de l'histoire comme les changements climatiques, les difficultés de la condition d'artiste en même temps que la nécessité de l'art. On entend tout le temps. Et c'est beau. Et c'est effectivement, je vous donnerai le papier si vous voulez, mais est-ce que vous les aimez tous, ces personnages-là, tels qu'ils sont, avec leur part d'ombre, de lumière, d'horreur, de destruction ?
Il y en a qu'on ne peut pas aimer, qu'on ne peut pas juger, mais qu'on ne peut pas aimer non plus. Comme ceux qui mettent les menottes au poing de Carlos. Non. Mais dans l'institution de la violence elle-même, souvent, ceux qui font la violence l'ont beaucoup subi.
Oui.
C'est cela la question,
c'est une transmission aussi.
Oui, c'est ça la question que se posait Dostoïevski. Mm. Et que nous, on se pose aussi, c'est pourquoi ? D'où cela sort-il ? Je crois beaucoup que les êtres peuvent changer. Je ne crois pas qu'ils soient damnés de nature. Je crois qu'il y a une possibilité. Il y a une toute petite porte ouverte pour changer. Et bon, c'est le cas dans le soir, par exemple, de la sœur qui ne peut pas supporter ce frère sidéen, qui même est intolérant, méchant, et qui ne se réveillera vers la tolérance et la compassion et l'amour, je dirais l'amour de son frère, que des mois plus tard. Lorsque le frère ne sera plus là, elle se souviendra de ses souffrances. Et elle se souviendra, en ouvrant un tiroir dans la maison, elle trouvera un vêtement et soudain, elle aura la révélation qu'elle s'est vraiment trompée. Je ne dis pas que c'est possible aux êtres humains de vivre comme ça, mais cela peut arriver.
Mais est-ce que vous avez l'impression que tous, vous les écrivez avec vous-même ou vous sont-ils vraiment étrangers et vous réussissez à vous métamorphoser en eux? Est-ce qu'un écrivain peut écrire avec autre chose que lui-même, au fond, avec une parcelle de lui aussi?
Mais la parcelle, c'est la façon dont tout rentre en nous, dont nous sommes habités. Je pense que c'est ça, la parcelle, mais qui est nous-mêmes. Mais je pense que, enfin, les écrivains normalement travaillent d'après nature et travaillent. Ils ne pourraient rien faire sans être inspirés par les autres. Mmh. Et les autres nous nourrissent beaucoup. Et comme nous en sommes nourris, autant de bien que du mal de ce qu'ils sont, nous sommes capables de décrire ce que nous avons observé avec parfois beaucoup de douleur. Et puis, longtemps. Je pense que c'est une longue patience qu'il faut. Hein. Parce qu'il faut vraiment... Les autres sont notre passion.
Oui, au sens étymologique du terme.
Oui.
C'est de la lumière et de la souffrance.
Oui.
Et donc aussi, tout seul avec soi, mais au cœur du monde, au cœur, au sens choral du terme. Ça a quelque chose de monastique, là aussi.
Oui, c'est très, très sévère.
Je vous remercie infiniment, Marie-Claire Blais. On pourrait parler longtemps, mais un des plaisirs aussi de cette rencontre, c'est qu'on parle toutes les deux, mais les autres nous écoutent, et c'est à leur tour de prendre la parole pour poser vos propres questions à Marie-Claire Blais. Alors, je vous en prie, vous avez des micros de chaque côté de la salle. Donc, n'hésitez pas, allez-y.
Bonjour, Mère Claire. Je m'appelle Maxime. Donc, j'aimerais savoir, c'est une question que je me pose depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé la poésie que vous aviez écrite avant, dans le passé. Puis je me demandais si après la conclusion de cette grande fresque-là, littéraire, il y aura lieu de pouvoir relire la poésie de Marie-Claire Blais sous forme de vers ou de poèmes.
Merci de la question, Maxime. Bien sûr, j'espère moi aussi. J'espère moi aussi. Le travail de cette longue... série de soif est un travail qui exige d'être très poétique parce que c'est peut-être la difficulté de l'écriture de ce livre, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un ton qui se rapprocherait du monde du journalisme où il faut que ce soit perçu de l'intérieur. De l'intérieur, la vie qui croît de nous doit être, quand on l'écrit, assez poétique. Parce que je pense que si j'écrivais soif avec
comme un reportage.
Oui, ou bien un ton réaliste, sans la poésie qui est là, la poésie est présente et il faut qu'elle le soit parce qu'elle permet le chant. Autant les choses sont terribles, parfois, on entend quand même et le chant des vagues, et on entend. On entend que, par exemple, si on entend les coups de fusil, on entend aussi, ou bien si on est Jacques, et si on est en train de mourir près de la mer, il entend toujours le chant des vagues, et en même temps, il sait bien que, et, comme disait Radiguet, il est le fusillé de Dieu. Il y a toujours cette dense poésie dans le texte, qui doit sauver le texte, en quelque sorte, comme un chant. C'est le chant qui est la poésie. Il faut que ce soit très musical. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, quand je travaille à ces livres-là, d'être dans un poème qui n'en finit plus, mais qui permet à la fois le chant et puis de sortir de l'obscurité que pourrait donner cette écriture-là.
Mais c'est comme il y a une transcendance du réel, justement. Mmh. C'est l'inverse du journalisme, mmh, où il s'agit de dire vrai. Il faut dire la vérité pour rendre compte des faits véridiques. Là, c'est presque un travail inverse. Non pas que ce ne soit pas vrai, mais c'est plus vrai que vrai. C'est une vision. C'est plus une vision du réel que un témoignage simplement du réel.
Sinon, oui, eux-mêmes, les gens vivent comme ça, n'est-ce pas, l'autre. Oui. Nous sommes toujours au-delà du réel, n'est-ce pas, mm-hmm. Oui.
Finalement, oui, c'est pour ça que c'est plus vrai que vrai. Au moins, c'est humain.
Oui, c'est ça.
Question.
Oui, oui,
oui. Madame.
Bonjour d'abord. Merci à vous, Madame Apostolica, de nous présenter de si grands personnages. Et à vous, Madame Blais, vous dites que vous êtes constamment habitée par vos personnages. Comment pouvez-vous arriver à vivre quotidiennement avec 150 personnages qui vous arrivent? Comment arrivez-vous à vous ressourcer, à faire le vide? Est-ce que vous pouvez arriver à décrocher avec un tel bagage, un tel chef-d'œuvre, avec tout ce que vous avez écrit, tous vos personnages? Est-ce que ça n'est pas lourd à porter avec les années? Ou si vous n'avez pas connu autre chose, donc c'est votre quotidien?
Ben, c'est le quotidien, mais aussi, c'est vrai que quand un livre est achevé, bien sûr, on pense tout de suite à l'autre. Mais le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est très rafraîchissant. On abandonne le dernier et on entre dans un nouveau livre. Et il y a un rafraîchissement, il y a une détente.
Il n'y a pas de douleur, il y a des écrivains qui se disent qu'il y a comme une douleur à laisser ces personnages. Pour vous, c'est un ressourcement, c'est une joie, c'est un plaisir.
Si on va vers un autre livre, on entre tout de suite, on ne permet pas...
Ah, d'accord.
On se renouvelle. Et bien sûr, il faut admettre que l'écriture est aussi une joie. Qui vraiment est un sentiment de joie dans la vie si on travaille tous les jours. Si on ne travaille pas tous les jours, on peut avoir des mécontentements. Il y a des grands mécontentements si on travaille mal, si on est dérangé. Et aussi parce que la vie prend beaucoup de place, on a des amis. On s'inquiète plus parfois pour ses amis que pour ce qu'on a à écrire. On a du temps à passer avec nos amis, on a des heures à vivre avec l'amitié, la tendresse, les animaux, tout, la vie. Mais d'être habité par un livre, c'est quand même un sentiment de joie.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Elle semble frêle comme ça, mais elle contient des centaines de personnages. Quand est-ce que vous savez que c'est fini ? Là, par exemple, vous avez senti que ce n'était pas une trilogie, mais que ça continuait. Et maintenant, il y en a un cinquième. Est-ce que vous sentez qu'il y en aura d'autres ?
Bien, je pense que je vais traduire le plus possible. Je vais essayer de traduire le plus possible ce mouvement de notre vie contemporaine qui fait que nous avons des êtres qui vont dans toutes sortes de directions. C'est tellement fascinant à faire. Je pense, on parlait tout à l'heure de l'Inde. Bon, je pensais à un personnage comme Ahsoka dans La Foudre et la Lumière. Il est un peu partout, il revient constamment, mais il grandit. Ce moine pèlerin dans le monde, il est là, qui cherche toujours à aider les autres. Mais à côté de lui, il y a son ami qui s'appelle Harry, qui est un artiste, qui lui est beaucoup plus, très épicurien, qui pense surtout à sa femme, sa fille, ses conquêtes, comment devenir un sculpteur qui gagne beaucoup d'argent. Enfin bon, il en est absolument le contraire. Mais
ils vont ensemble.
Mais ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien. Je veux dire, ils n'ont pas la même route. Ils ne parcourent pas la même route. Ils ne seront pas en communication souvent sur des routes étrangères vers lesquelles ils vont. Mais ce qui les unit peut-être, c'est la conquête d'un monde meilleur. Lui, c'est par l'action, l'action mystique d'Ahsoka, qui est une action véridique aussi, puisqu'il s'en va vraiment aider les gens, les secourir, construire des hôpitaux. Et l'autre, qui pense, il est fou de faire ça. Moi, je pense que c'est bien mieux de faire des sculptures, mais qui est plus égoïste et tout. Mais tous les deux servent
Et tous les deux ont raison.
Tous les deux ont raison. Et je pense que de pouvoir traduire ces êtres, les besoins, les désirs d'évolution de ces êtres très contemporains, parce que nous avons cela aujourd'hui. Nous avons des gens mystiques comme Ashoka, nous les connaissons, ils sont parmi les moines récemment qui ont donné leur vie, qui donnent leur vie constamment aux autres, et puis qu'on peut assassiner aussi. Et ils sont en même temps les artistes que dans toute société rêve, comme Harry, qui est un artiste très producteur, qui en même temps veut une famille, une vie heureuse. En fait, il s'acharne au bonheur. Alors, l'un s'acharne à plaire, à ne pas plaire, justement, être un mystique qui ne plaît pas, mais qui travaille au nom de l'humanité, et l'autre est au nom de soi-même. Mais peu importe, ils ont raison.
La vie contient tout ça. Est-ce que ça vous permet aussi, vous, de vivre toutes ces vies-là? C'est ça aussi.
Mais je pense qu'on rencontre dans notre existence des gens comme ça, des gens qui vont en compagnonnage, sans même se connaître, et qui sont le contraire de l'un et de l'autre. Celui qui agit et celui qui pense, ou celui qui est très spirituel et celui qui est tellement charnel. Et parmi les petits-enfants qui sont décrits dans ces livres-là, chacun est déjà assez dessiné. Et a déjà son monde intérieur assez plein. Mais se disant, qu'est-ce que le monde fera de moi ?
Et souvent beaucoup plus plein, d'ailleurs, à l'enfance, qu'est-ce que ça devient. Oui. Il arrive qu'il y ait des enfants qui sachent qu'ils deviendront des écrivains et qui deviennent de grands écrivains et qui, par exemple, l'année prochaine, vont fêter 50 ans d'écriture, de publication. Et c'est sûr que c'est très important pour vous et pour nous. C'est un vrai cadeau. Et c'est un cadeau que vous nous avez fait en étant là aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.
Merci, Aline.
Je vous remercie. Bien sûr, à tous ces livres et aux librairies et aux bibliothèques et à la grande bibliothèque pour retrouver tous les personnages de Marie-Claire Blais. Merci.
Merci, Aline.